Au quotidien, ben, on l'entend. On entend parler d'histoires complexes ou on pourrait dire de chicanes de famille en lien avec la liquidation d'une succession. Hein. C'est pas un dossier simple. Pour éviter les inconvénients qui peuvent être malheureux à notre succession, ben, on nous répète, on nous rappelle régulièrement que c'est important de préparer un testament avant notre décès. Ça arrive pas toujours. Supposons qu'on l'oublie, qu'on omette de le faire. Qu'est-ce qui arrive exactement? Comment ça se passe? Mais pour en discuter cet après-midi, on a avec nous Geneviève Gratton, notaire et directrice du Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Geneviève, bonjour.
Bonjour, Sébastien.
Donc, c'est quoi la première étape là, qu'on doit faire après le décès d'une personne de notre entourage?
Mais la première étape juridique à traverser est assez simple. Il s'agit de confirmer si la personne qui est décédée avait ou non un testament. Si on a une copie papier du testament notarié ou devant avocat, ça va faciliter nos démarches. Mm-hmm. Par contre, si dans le cas contraire, là, si on a un testament devant témoin ou holographe, les choses se complexifient un peu. En passant, un testament holographe, c'est un testament qui est entièrement écrit de la main du testateur et signé par celui-ci. Il n'y a pas besoin de témoin, mais il doit être absolument écrit et signé par le testateur.
OK, puis qu'on a fait nous-mêmes, puis le notaire n'a pas passé par-dessus après, là.
Non, absolument okay. pas. Là. C'est vraiment quelqu'un qui prend une napkin ou un papier chez lui, là, puis qui écrit son testament, puis qui le signe.
OK.
Dans tous les cas, il faut faire des vérifications au registre des dispositions testamentaires et des mandats de la Chambre des notaires du Québec et du Barreau du Québec. Il y a un formulaire qui est disponible sur le site web de chacune des organisations pour vous permettre de le faire vous-même, si vous le voulez, mm-hmm. ou vous pouvez demander à un notaire ou un avocat qui va faire les démarches pour vous.
OK.
Après un certain délai, on va obtenir le certificat de recherche testamentaire qui confirme s'il y a un testament qui a été inscrit à l'un ou l'autre des registres. Si c'est le cas, on verra seulement le dernier testament qui a été fait par le testateur. On va avoir les coordonnées du notaire qui détient le testament dans son greffe pour pouvoir en récupérer une copie certifiée, ça c'est si vous n'en avez pas déjà une entre les mains. Mm-hmm. Si c'est un testament devant avocat, par contre, c'est considéré comme une copie devant témoin. Donc, il se peut que l'avocat n'y ait plus de copie dans ses dossiers okay. parce qu'il y a une obligation de conservation de 7 ans. Si les testaments devant témoin ou holographe, dans ce cas-là, ils devront faire l'objet d'une vérification devant la Cour supérieure parce qu'il y a seulement les testaments notariés qui n'ont pas besoin d'une telle vérification.
OK. Puis en supposant que, ben, finalement, il n'y en a pas de testament d'inscrit dans les registres, qu'est-ce qui se passe?
OK. Oui. À ce moment-là, c'est les règles du Code civil du Québec qui vont s'appliquer quant à la manière dont vont être répartis les biens de la personne décédée. C'est également quant à la procédure à suivre.
Donc là, l'entourage de la personne décédée n'aura pas son mot à dire?
Ben oui, quand même. Elle va avoir le choix de l'exécuteur testamentaire qui est maintenant appelé depuis 1994 liquidateur de la succession. Donc, le liquidateur, c'est la personne qui se charge de régler la succession ou de liquider la succession.
OK.
Lorsque le défunt n'a pas fait de testament, la loi prévoit que ce sont les héritiers qui sont ensemble les liquidateurs de la succession. Ils peuvent s'entendre pour nommer l'un d'entre eux comme liquidateur afin de simplifier les choses par un vote à la majorité. Il y a un notaire qui pourra préparer une déclaration d'hérédité avec nomination du liquidateur. Puis dans ce document, on fait la liste des héritiers mm-hmm. Selon les termes du Code civil et on nomme un ou deux liquidateurs selon ce que les héritiers auront décédé. Mais toutes ces personnes-là doivent signer ce document-là ou leurs représentants, s'ils peuvent pas eux-mêmes, là, lorsqu'il s'agit de mineurs ou de majeurs inaptes. Sinon, ils devront prendre toutes les décisions ensemble pour chacune des étapes du règlement de la succession ou s'adresser à la Cour s'ils ne s'entendent pas pour qu'un juge désigne le liquidateur parmi eux.
Oui, parce qu'on veut que ça fonctionne. Il faut avoir de la bonne entente pour que tout le monde s'entende là-dessus puis qu'on prenne les décisions en groupe, là.
Oui, exactement. Sinon, ça fonctionne pas. Mm-hmm. Puis ça allonge les délais, ça complexifie un processus qui est déjà pas mal compliqué, surtout si vous avez des héritiers qui habitent pas la même région. Par mm-hmm. exemple, vous habitez en Outaouais où votre père est décédé, mais vous avez un frère à Toronto avec lequel vous avez assez peu de contact et une sœur à Québec. Imaginez, ils devront se déplacer mm-hmm. pour signer les documents ou vous donner une procuration pour chaque geste que vous feriez en leur nom.
Donc là, si le défunt avait fait un testament, il aurait nommé déjà la personne qu'il souhaitait avoir comme liquidateur de sa succession.
Oui, exactement. Surtout si c'est un testament fait devant notaire ou devant avocat.
Puis on a parlé du Code civil tantôt. Est-ce que c'est aussi le Code qui décide comment seront partagés les biens parmi les héritiers?
Oui, en réalité, ça va encore plus loin que ça parce qu'il va déterminer même qui sont les héritiers selon la situation de la personne décédée. Par exemple, dans le Code civil, on dit que le défunt, lorsque le défunt est marié puis qu'il a deux enfants, c'est pas le nombre d'enfants, mais on peut imaginer.
Exemple,
oui. Son conjoint a droit à un tiers de la succession. Les enfants, eux, vont se partager entre eux les deux autres tiers. Pour les conjoints de fait, la loi prévoit absolument rien. Ils vont être considérés comme des locataires, colocataires au sens de la loi, sauf pour certaines lois particulières qui reconnaissent des droits comme la loi sur l'impôt ou la RRQ. Puis ça, là, ces lois-là mélangent vraiment les gens quant aux droits que pourraient avoir des conjoints de fait.
Il y en a moins qu'on pense souvent, là. C'est ce que je comprends.
Ils en ont, à toute fin pratique, face à une succession, pratiquement aucun.
OK.
Il est donc important, lorsqu'on vit en union de fait particulièrement, de penser à faire un testament si on désire que notre conjoint hérite de nos biens ou d'une partie de ceux-ci. Parce que si je reprends mon même exemple, mais que les conjoints ne sont pas mariés, tous les biens iront aux deux enfants du couple, même s'ils sont mineurs.
Mm-hmm.
Pouvez-vous imaginer la situation, là? Donc, vous pourriez vous retrouver copropriétaire de la maison avec vos enfants. Puis ça arrive plus souvent qu'on le pense.
OK, c'est pas évident. Si on peut éviter ça, ce serait bien.
Oui, mais écoutez, là, vos auditeurs me voient peut-être venir, là, mais je vais vous donner une situation encore plus problématique et qui arrive quand même assez fréquemment. Si vous vous retrouvez copropriétaire avec les enfants que votre conjoint décédé aurait eu d'une famille recomposée, donc d'une première union, pardon. En gros, ça implique que vous pourriez vous retrouver à gérer la succession de vos enfants mineurs avec l'ex-conjointe des enfants mineurs que votre conjoint aurait eu précédemment d'une première union. Puis là, je vous raconte même pas le malaise juridique lorsque votre conjoint défunt aurait jamais divorcé de son épouse, même si ça fait 10 ans qu'ils sont plus ensemble.
Ah oui, ils n'ont pas signé le papier, mettons, là.
Oui, c'est ça. Ils n'ont jamais passé à travers le processus du divorce. Ils ont gardé le statu quo.
Bon, ouais, on aimerait ça l'éviter. J'avoue que ça peut éviter bien des soucis. Sinon, est-ce que c'est possible aussi que les parents héritent?
Oui, mais ça, c'est seulement s'il n'y a pas de conjoint, encore là, marié, ou d'enfant.
Okay.
Donc là, on va se tourner vers les parents, les frères et sœurs du défunt.
Donc là, ce que je comprends, c'est que le liquidateur, c'est lui qui va travailler pour en venir à faire le partage. Est-ce qu'elle est complexe, la tâche du liquidateur?
Ben, je pense que vous me voyez venir. Le processus prévu par la loi, il est assez lourd. Il y a plusieurs étapes juridiques à traverser, en plus des différentes tâches administratives qui doivent être réalisées. Donc, le liquidateur, il administre les biens, l'argent, les dettes, les créances du défunt avant que le partage soit fait. Ça, c'est vraiment important. Le partage ne doit jamais être fait des biens avant que tout soit payé.
Mm-hmm.
Il doit donc d'abord s'occuper d'identifier puis d'aviser les héritiers de l'ouverture de la succession. Parce que des fois, il y a des héritiers qui ne sont pas au courant du décès du défunt. Sauf s'il est spécifiquement dispensé de le faire par tous les héritiers unanimement, il doit dresser un inventaire des biens du défunt. Donc, afin de déterminer si la succession est déficitaire ou pas, parce que ça va permettre aux héritiers soit d'accepter ou de refuser la succession, parce que vous imaginez que si la succession est déficitaire, si vous acceptez la succession, vous acceptez la dette de la succession.
Oui, ouais, ça nous tente moins, ça.
Oui, c'est moins intéressant. Donc, c'est important de bien respecter chacune des étapes légales parce qu'il est possible, sinon, qu'on soit reconnu personnellement responsable des dettes de la succession quand on est le liquidateur.
Puis, parallèlement à tout ça, c'est aussi le liquidateur qui va fermer les comptes existants de la personne qui est décédée.
Absolument. Le liquidateur doit fermer tous les comptes bancaires, le compte d'hydro, le compte de téléphonie, ça va aussi loin que le compte de médias sociaux. Puis il doit aviser les organismes comme la Retraite Québec ou la Société de l'assurance automobile du Québec. Il faut aussi savoir que le liquidateur doit préparer les déclarations de revenus du défunt passées s'ils n'avaient pas fait... il y a du retard dans ses déclarations, et de l'année en cours. Donc, supposons qu'il est décédé en mai, ou elle est décédée, j'arrête de parler au masculin. Hein? Donc, si elle est décédée ou il est décédé en mai, il faut faire l'impôt du 1er janvier jusqu'au moment du décès, avant de pouvoir procéder encore là au partage de la succession. Il y a des délais très spécifiques pour ce faire qui varient en fonction de la date du décès. On sait que les amendes peuvent être vraiment salées en cas de défaut. Il est donc vraiment important de bien s'informer, de se faire accompagner par des professionnels si on en a. Si on n'a pas les connaissances, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide.
Puis, est-ce qu'il y a une autorité qui surveille les liquidateurs là, si jamais ben, ils font peut-être moins bien leur travail là, qu'espéré?
Oui, ben, il n'y a pas de police de liquidateur, mais toute personne intéressée pourrait faire des démarches contre le liquidateur qui n'aurait pas produit l'inventaire, payé les créanciers ou caché des informations aux héritiers. Il est susceptible d'être poursuivi par ces personnes intéressées devant les tribunaux. Donc, quand on parle de personnes intéressées, on parle des héritiers, entre autres, mais aussi des créanciers.
Ce que je comprends, là, si on revient au début de cette chronique-là, Geneviève, c'est que c'est pas simple. Hein?
C'est pas simple. Puis là, j'ai vraiment essayé de vous simplifier l'information au maximum, mais c'est sûr que j'ai omis de vous dire un tas de choses. Donc, pour les personnes qui doivent faire face à la tâche de liquidateur, il est important de se tourner vers des ressources ou des personnes qui pourront les aider, un professionnel du droit ou une clinique d'information juridique, comme le Centre de justice de proximité d'Outaouais, par exemple. Sinon, bien évidemment, vous allez trouver des ressources sur le web, mais c'est important de prendre des sites québécois et non français, tels qu'Éducalois ou Service Québec, qui rend aussi disponible en format PDF ou version papier le guide « Quoi faire lors d'un décès » que vous pouvez aussi trouver dans les maisons funéraires.
Là, si les auditeurs ont des questions, Geneviève, on peut communiquer avec vous au Centre de justice de proximité de l'Outaouais?
Bien sûr, on peut nous joindre au 819-600-4600 pour obtenir davantage d'informations liées à votre situation. Je rappelle que le service est gratuit pour tous, là, peu importe votre revenu. Puis on offre aussi à la demande d'organismes de donner des séances d'information sur des sujets comme les successions, les testaments, les mandats de protection, entre autres.
Bon, ben c'est je pense que ça peut être bien pertinent si on n'est pas trop sûr d'où on s'en va puis qu'on doit s'acquitter de cette tâche-là. Geneviève Graton, qui est directrice du Centre de justice de proximité de l'Outaouais, merci beaucoup, puis on se reparle dans deux semaines.
À dans deux semaines. Merci, Sébastien.